Vous écoutez RTL.
7h45, Olivier Mazerolle, vous recevez Arnaud Montebourg.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Monsieur Mazerolle.
Vous revenez en politique, on va parler un peu de l'actualité. Le gouvernement ne cède pas sur la loi travail. En période d'état d'urgence, il laisse se dérouler les manifestations et les grèves. Il dit non au blocage. C'est un abus de pouvoir ?
C'est surtout un blocage généralisé, finalement, de part et d'autre. Vous avez deux thèses qui s'affrontent. J'irai jusqu'au bout, je ne céderai pas. Je pense que la discussion dans un pays démocratique est nécessaire avant la prise de décision. Le coup de force qui s'ensuit, qui était le fameux 49-3, je crois qu'il y a eu une discussion pendant le 48 heures maximum.
Empêcher les blocages, c'est un coup de force ?
En tout cas, débloquer les blocages, c'est la responsabilité du gouvernement. Et cela, il n'y a pas 36 solutions. Soit on retourne au suffrage universel. J'ai fait la suggestion d'un référendum. C'est une solution qui existe dans de nombreux pays. Certains l'ont suggéré fortement dans notre situation, qui est quand même préoccupante, parce que ça porte atteinte à l'image du pays, ça porte atteinte à la vie quotidienne de nos compatriotes. Et puis surtout, si on ne fait pas cela, il faut, dans ce cas-là, ou réouvrir les négociations. Moi, je veux une proposition concrète. Pourquoi on ne nommerait pas un médiateur à deux têtes, l'un qui serait proche de la CGT, l'autre qui serait proche, du gouvernement ou des cercles gouvernementaux, et qui irait débloquer la situation et reprendre le dialogue
alors
pour
on parle
trouver
beaucoup,
une solution. C'est pas absurde.
On parle beaucoup de la CGT, mais la loi qui donne la priorité à la négociation dans les entreprises, au plus près du terrain, donc, est appuyée par la CFTC, la CGC, la CFDT, trois centrales qui, à elles trois, sont majoritaires. Pourquoi ne pas les suivre plutôt que la CGT ?
Mais je voudrais vous dire que dans cette loi, il y a un problème. C'est qu'une bonne loi du travail, vous la faites avec tout le monde. Pourquoi vous la faites avec tout le monde ? Et notamment la grande masse des salariés. La CGT, c'est le premier syndicat dans notre pays. Voilà. Donc on peut taper sur la CGT. Moi, je ne le ferai pas parce qu'elle représente une partie du monde du travail.
Mais elle est minoritaire par rapport aux autres.
D'accord, elle est minoritaire. Et alors ? Elle existe et il faut bien en tenir compte.
La minorité peut agir par les blocages.
Mais je ne le crois pas. Je pense qu'un gouvernement a la responsabilité d'inclure. D'ailleurs, quel est le problème de cette loi ? C'est une loi qui dit au monde du travail, vous allez accepter ça, mais quelles sont les contreparties ? C'est le problème de l'équilibre dans une loi comme le droit du travail quand on le modifie. Il faut proposer des contreparties aux salariés lorsqu'on leur demande des efforts. Et ça ne peut pas être, et on ne s'en sortira jamais les uns contre les autres. Moi, je ne souhaite pas la victoire des uns contre les autres.
Mais la contrepartie, c'est que les syndicats peuvent se prononcer à 50% dans une entreprise.
Non, la contrepartie, c'est vous acceptez que les accords de branche ne vous protègent plus, par exemple, sur l'organisation du travail, sur la rémunération des heures supplémentaires, mais est-ce qu'on a une contrepartie qu'on pourrait négocier dans les entreprises ? Tout le monde sait qu'on a besoin de flexibilité dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on donne aux salariés en contrepartie ?
Alors, et le gouvernement semble se diriger vers des contreparties dans d'autres secteurs, des négociations salariales, par exemple, dans les transports, qui pourraient permettre de dériver un peu la tension générale. Ça vous semble une bonne porte de sortie ?
Écoutez, je ne sais pas. Je crois que la méthode doit être celle du compromis. Le compromis social, le compromis entre des forces qui ne sont pas d'accord. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans la société, et donc il est nécessaire de les concilier.
Sans changer sur cette loi, est-ce que vous seriez favorable, comme c'était le cas pour la première fois, à une motion de censure quand elle reviendra devant l'Assemblée au mois de juillet prochain ?
Cette loi pose un certain nombre de questions.
Mais est-ce que vous seriez favorable à une motion de censure ?
Je peux être favorable à des tas de choses, je ne suis pas parlementaire.
Oui, mais
si vous me demandiez si je voterais personnellement cette loi, je vous répondrais non. Je ne la voterai pas en l'état.
Vous avez dit que
je
vous
auriez
été...
Je pense qu'elle aurait dû être largement amendée et rediscutée.
Donc si elle revient en l'état, vous êtes contre ?
Je viens de vous le dire.
Et pour une motion de censure ?
Écoutez, je ne sais pas ce que je
Parce
ferai.
Il y a des frondeurs qui sont favorables.
D'accord, mais je pense qu'un certain nombre de positions ont été prises. Moi, personnellement, si on me demandait de me prononcer sur une motion de censure, il y a de fortes chances que je la voterais.
Ça fait 40 ans que la France est en échec sur l'emploi. Il y a des tas de pays qui font mieux, mais en général, ce sont les pays qui ont réformé. C'est le cas notamment dernièrement de Matteo Renzi, qui a pu faciliter les licenciements tout en garantissant des droits progressifs en fonction de l'ancienneté dans les entreprises. La différence, c'est que lui, il n'a pas de frondeur sur le dos.
Je ne dirais pas ça. D'abord, je ne suis pas certain que le chômage italien soit à un niveau enviable.
Il est beaucoup
plus élevé.
Un peu.
Il diminue peu. Comme tous les pays de la zone euro. On pourrait regarder d'ailleurs ce qu'ont fait les Américains. ce qu'ont fait les Anglais, qui ne sont pas dans la zone euro. Ils ont utilisé d'autres méthodes, qui consistent à ne pas se concentrer sur les déficits publics, mais à relancer l'économie et la croissance par la création monétaire. Ils l'ont fait avec leur banque centrale, ce que refuse obstinément la banque européenne, centrale européenne. Donc, ils ont fait des choix qui sont parfaitement alternatifs aux nôtres, et ils sont en train d'obtenir le plein emploi.
Les Anglais, c'est des petits boulots. Hein.
Ils sont en train d'obtenir le plein emploi.
Vous êtes pour le système britannique.
Excusez-moi, monsieur Mazerolle, mais quand on passe de 10% de chômeurs, ce qui était le cas des États-Unis d'Amérique, à 5%, je pense que cela a un
là,
sens.
Là, vous allez avoir la CGT dans la rue si vous commencez à dire
je
que les Anglais
pas. Je pense que tout
réussissent.
Le monde, non, je pense que tout le monde a besoin de travailler, de participer et de trouver du travail. Et quand vous avez une économie qui n'en offre pas, car je rappelle qu'en 4 ans, nous accumulons 1 million de chômeurs de plus, notamment en raison des politiques d'austérité et inspirées par l'Union européenne et approuvées par le gouvernement français, notamment, eh bien, nous nous retrouvons avec, aujourd'hui, une économie à plat.
Votre projet, c'est le Made in France, le patriotisme économique. Mais quelle est la part du rêve et de la réalité? Parce que si nous avons du Made in France, si nous poussons les Français à acheter français, les autres pays vont faire de même avec leurs ressortissants.
D'abord, tous les autres pays le font. C'est le cas, par exemple, des Allemands. Ils le font sans le dire parce qu'ils ont un esprit patriotique qui est enraciné. Les Italiens ont aussi une identité patriotique très forte. Je ne parle pas des Américains, des Anglais, des Japonais. Tous les pays ont la fierté de défendre leurs appareils productifs. Donc moi, je défends comme projet alternatif à l'adaptation permanente et sans fin à la mondialisation libérale, sauvage, ce qui est une stratégie pour la France, mais on a déjà commencé, on voit que les résultats sont catastrophiques. Je propose une politique puissante de patriotisme économique. Exemple. Premièrement, d'abord, défendre nos entreprises lorsqu'elles sont menacées. Si on avait eu un fonds de 150 milliards d'euros avec les caisses de retraite, les institutions de prévoyance à mettre dans tous les grands groupes, nous n'aurions pas perdu Lafarge, nous n'aurions pas perdu Alstom, nous n'aurions pas perdu Pechiney. Commençons par ça. Deuxièmement, imaginons ce que c'est qu'aujourd'hui, pour une PME, de travailler finalement, à la compétition internationale. C'est extrêmement difficile. Pourquoi les marchés publics, c'est environ 100 milliards chaque année, ne sont pas réservés aux PME sur notre territoire? Deuxième proposition.
L'Europe.
C'est parfaitement possible. D'ailleurs, je vais vous dire, l'UGAP, c'est l'Union des achats publics, qui repèse à peu près 3 milliards des achats publics, 3% environ. Ils sont à 98% made in France. Donc, au lieu d'avoir 130 000 acheteurs publics, réduisons le nombre et faisons-les passer par l'UGAP. C'est exactement ce que font tous les pays européens.
Pour acheter français, il faut aussi bien gagner sa vie, parce que souvent, ça coûte plus cher d'acheter français que d'acheter étranger.
C'est totalement inexact, monsieur Mazerolle.
Ouais, chinois.
C'est totalement inexact. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que quand vous achetez chinois, vous êtes obligé de le racheter, parce que c'est quand même pas de très bonne qualité. Mais prenons l'exemple de l'agroalimentaire. C'est 90-95% dans la grande distribution. Ce sont des produits fabriqués en France. D'ailleurs, heureusement, puisque nous avons un art particulier qui est l'art de bien manger, de bien vivre. Oui. Et cela est une mythologie, celle qui consiste à penser que les voitures qui sont fabriquées en France sont plus chères que les voitures qui sont fabriquées en Allemagne. C'est même l'inverse.
Vous avez attaqué l'Europe. Il semblerait que vous l'ayez dans le collimateur, notamment au sujet des travailleurs détachés. Sur ce plan, vous souhaiteriez que François Hollande fasse, comme le général de Gaulle, la politique de la chaise vide et dise « débrouillez-vous sans nous ».
Une politique de patriotisme économique, ça consisterait par exemple à suspendre unilatéralement la directive des travailleurs détachés qui permet à des travailleurs sans protection sociale de l'Europe de l'Est de venir travailler selon la loi de leur pays d'origine et de faire une concurrence déloyale à nos travailleurs qui, eux, ont la protection sociale.
La formule suspendre unilatéralement, c'est un peu compliqué. Politique de la chaise vide, on n'applique pas.
Ça veut dire que là, ça n'est plus acceptable. Je vais vous dire, pour les Allemands, c'est très bon pour eux, la directive des travailleurs détachés. Parce qu'ils ont un problème démographique. Ils manquent de bras. Mais nous avons des millions de chômeurs. Donc les 300 000, au bas mot, travailleurs détachés que nous faisons venir dans le BTP, dans les transports, posent d'énormes problèmes à notre pays. Donc, à un moment, la clause de survie qui existe dans le traité européen peut être activée en disant, écoutez, ça met en cause la vitalité économique de notre pays.
Jusqu'où avez-vous envie d'aller dans la vie politique? Finalement, là, vous êtes heureux sur le plan personnel, sur le plan professionnel, vous êtes industriel dans l'environnement, dans des industries d'environnement. Et puis, vous avez quand même la réputation de quelqu'un qui a la réflexion, du talent, mais qui est plus narquois que déterminé, qui va rarement jusqu'au bout.
Ben, je ne sais pas qui vous a dit que j'étais plus narquois que déterminé. Si votre question est « qu'avez-vous fait pendant 2 ans ?» Ben, je n'ai pas traversé le désert, j'ai traversé l'économie française, les petites entreprises, les grandes. J'ai travaillé
passé politique.
Comme tout le monde,
je
voilà, parle de au milieu passé des Français. Politique. Je suis très fier d'avoir créé quelques emplois, moi aussi, de participer à ça. En toute modestie et de façon très concrète. Quel est mon désir ? D'abord, je me suis mis avec mon équipe à bâtir un grand projet alternatif à la politique de François Hollande. Parce que nous avons un problème avec ces orientations-là. Voilà, moi j'ai un problème. Je ne me sens pas représenté.
Et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ?
Quand j'étais au gouvernement, il y a eu des débats très durs à l'intérieur de l'équipe gouvernementale.
Mais maintenant, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ?
Aujourd'hui, je ressens la nécessité de bâtir un projet et éventuellement de le porter. J'ai juste besoin d'avoir le temps de le construire, d'en tester la solidité, d'en mesurer la force. Est-ce qu'il est capable d'entraîner ? Et si c'est le cas, M. Mazerolle, eh bien, on se retrouvera, je vous dirai, que nous allons plus loin.
Et vous avez l'occasion d'en parler tout à l'heure avec les auditeurs.
La discussion est nécessaire dans un pays démocratique, vient de nous dire Arnaud Montebourg, qui propose entre autres une médiation à deux têtes hein, dans le conflit sur la loi travail. Juste une question, Arnaud Montebourg, avant qu'on vous retrouve avec nos auditeurs. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être surpris de vous entendre à la fois critiquer la loi El Khomri et de vous dire favorable au système anglais, avec des contrats à 0 heure, par exemple ?
Non, mais ce n'est pas...
Et ça d'abord... interroge sur votre trajectoire et sur votre futur projet.
Mais les Anglais ont trouvé des équilibres. Il n'y a pas de protestation des travailleurs anglais. Ils ont leur équilibre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique macroéconomique de M. Cameron. Elle est parfaitement hétérodoxe par rapport à ce qu'est la zone euro. Et ce n'est pas parce qu'il est de droite ou de gauche. Peu importe. Elle est intelligente. Et moi, pour moi, l'économie... Pas du tout. Pour moi, l'économie, c'est ce qui marche. Et je peux vous dire que la politique d'austérité fiscale que nous avons menée dans notre pays est une catastrophe, parce qu'elle a détruit du capital, elle a fait exploser le chômage, elle a mis l'économie à l'arrêt. Et nous en payons encore les conséquences.
Ce qui compte, c'est ce qui marche, c'est ce que disait Tony Blair.
Mais c'est normal. On ne peut pas exiger autre chose d'un dirigeant politique, quand même. Ni même d'un entrepreneur.
Ni gauche, ni droite.
Mais non, ce n'est pas ça. C'est que vous avez, de toute façon, un référentiel à des valeurs. Et excusez-moi, la loi El Khomri, elle n'a pas l'air de bien marcher.
On vous retrouve à 8h15, en discussion, en direct, bien entendu, avec nos auditeurs. Vous restez avec nous, Arnaud Montebourg. Je serais curieux de vous interroger sur un éventuel Brexit et de savoir comment vous le percevez, mais ça c'est dans 15 minutes. À tout de suite, merci beaucoup. L'entretien avec Olivier Mazerolle.